Mesdames, Messieurs, après avoir établi la responsabilité d'Auguste dans la fondation et la réhabilitation de la plupart des rites célébrés sur le territoire suburbain, nous avons examiné un document révélateur de la manière dont était perçu l'espace urbain suburbain de Rome, l'affaire du vœu à fortune équestre. Nous avons joint à ce témoignage les pratiques religieuses des magistrats romains à Ostie pour conclure que l'ager romanus au sens suburbain était chaque endroit où le peuple romain agissait religieusement, c'est-à-dire exerçait sa souveraineté. Nous avons ensuite étudié les modalités des cultes célébrés dans les espaces suburbains en partant de l'exemple des frères Arval qui est très précis. Nous avons constaté que ces cultes sont doublés en général. Ils comprennent toujours une célébration urbaine et une célébration suburbaine du culte. Nous avons donné une série de témoignages de cette pratique et nous en étions arrivés à celui des féries latines sur le mont Albin, dont j'avais commencé à traiter la dernière fois. Ce témoignage est certes fragile en raison de l'arrière-plan polémique chrétien, mais il tente à confirmer nos conclusions, au moins de façon générale, puisque le détail n'est pas sûr. Les témoignages sur la célébration urbaine des féries latines sont essentiellement tirés, comme je l'ai dit, des apologètes chrétiens qui insistent sur l'horreur du sacrifice humain qui serait offert à l'occasion de la célébration urbaine des féries latines. L'examen de ces cérémonies nous a porté à accepter la préférence d'Alexandre Grand d'Asie et à constater, voilà le témoignage de Cassius Dion dont j'avais parlé aussi, et à considérer que les cérémonies urbaines précédaient en fait les festivités du Mont Albin. L'enchaînement correspondrait ainsi parfaitement au modèle livré par les cérémonies des Arval, qui débutent également en ville avant la célébration au bois sacré de la lointaine banlieue. Cette reconstruction permet en outre de confier la présidence des rites urbains et suburbains au même officiant, au consul ou à l'empereur. Nous avons conclu à propos des Arval que la célébration urbaine qualifiait en quelque sorte les célébrants pour le culte suburbain. La célébration urbaine proclame également le caractère romain au sens local de ce terme, qu'il soit célébré intramuros ou plus loin sur le territoire. Tout ceci se retrouve dans le cas des féries latines. Arrêtons-nous donc encore un instant sur les célébrations urbaines de ces féries. Il existait sur une des hauteurs du Quirinal appelée Colis Latiaris, la colline du Latium littéralement, un lieu de culte de Jupiter Latiaris, malheureusement inconnu, on ne l'a pas retrouvé, qui doublait donc, maintenant on s'y attend, le site du Monte Cavo. Avant les féries, on y célébrait un sacrifice durant lequel, semble-t-il, la statue du dieu était aspergée par le sang d'un condamné à mort qui, selon les hypothèses de Georges Ville dans son ouvrage sur les gladiateurs, reprise par Alexandre Grand d'Asie, avait combattu dans l'arène. Nous connaissons mal toute cette cérémonie, en partie parce que seuls des textes polémiques chrétiens en parlent pour souligner la monstruosité d'une religion pratiquant le sacrifice humain. Vous pouvez imaginer le volume de la bibliographie qu'a suscité ce sacrifice humain, soit pour rejeter l'accusation chrétienne, soit pour l'accepter et tenter de justifier le rite. Une fois de plus, je ne veux pas m'engager dans une telle discussion car elle n'a rien à voir avec notre enquête. L'important pour nous est que durant cette fête, célébrée sur le Monte Cavo, les rites parallèles sont effectués à Rome. Il y avait sans doute un sacrifice suivi d'un spectacle de gladiateurs. Pendant celui-ci, était recueilli, semble-t-il, le sang d'un bestiaire mis à mort. On aspergeait avec ce sang la statue de Jupiter. S'agit-il d'une substitution de sacrifice humain ? Comme je l'ai dit, je ne veux pas entrer ici dans ce débat, mais je ne serais pas scandalisé si c'était le cas, car jusqu'en 126 avant notre ère, au moins, les Romains pratiquaient dans leur religion la plus publique, la plus officielle, le sacrifice humain. Et même si ce thème n'était pas débattu en public, il existait pourtant, je parle des enterrés vivants du Forum Boarium. Au spectacle de gladiateurs se joignait, semble-t-il, un second spectacle, une course de quadriges au Capitole, dont le prix était une coupe d'absinthe que buvait le vainqueur. Passons sur le problème de la difficulté d'organiser une course de quadriges, donc avec quatre chevaux, pour chaque attelage au Capitole, même si l'aire capitoline est assez grande. Alexandre Grandazi pense qu'il faudrait corriger le texte de Pline et lire « sub capitolio », ce qui se référerait au cirque Flaminius, donc au pied du Capitole, ce qui se référerait au cirque Flaminius, situé à une centaine de mètres du pied du Capitole. Mais on peut se demander pourquoi Pline aurait alors évoqué le Capitole dans son texte. Il aurait dit tout de suite dans le cirque, ou in Flaminio, ou n'importe quoi. On peut également tenir compte du fait que le terme Capitolium, Capitole, est aussi le nom d'une région de Rome, et que la course pourrait donc en fait tourner autour de cette région, se dérouler dans cette région, par exemple au pied du Capitole par les voies disponibles. Tenant compte d'un autre texte polémique dû à Novatien, qui rapporte que le sang humain était également bu à l'occasion de ces jeux, Grandazi suppose que le vainqueur de la course recevait en fait du vin et de l'absinthe, le vin remplaçant sans doute le sang. C'est peut-être une hypothèse hasardeuse, car nos sources sont très maigres. Il est par ailleurs difficile de reconstruire le déroulement du rite à partir des sources que nous avons. Et cela d'autant plus que le vin jouerait ici un rôle important, alors qu'il était exclu, comme nous l'avons vu, des rites du Mont Albin. Comment ensuite imaginer un sacrifice, puis un spectacle de gladiateurs de plusieurs heures, suivi d'une aspersion de la statue sur le Quirinal et une course de chars ? C'est un programme un peu chargé. Tout ça est difficilement compatible avec le déroulement ordinaire des jeux. Mais peu importe, ce sont là des détails et des impasses sans doute dans notre enquête. L'important, c'est la célébration des féries latines à Rome, d'abord, avant le rite central sur le mont Albin. Nous sommes en présence du même scénario que pour le sacrifice à Dea Dia, qui était certes beaucoup plus sage et mesuré que la cérémonie des féries latines, d'après ce qu'on en dit, mais qui obéissait dans sa substance au même déroulement en deux et même trois temps, puisque chez les Arvales, il y avait encore une clôture urbaine du sacrifice. Pour les féries latines et les autres cultes pris en compte, nous ne connaissons pas de clôture urbaine. Les liens entre un sacrifice ou un rituel célébré à la campagne et un lieu de culte urbain correspondant sont également attestés en pays grec. Ce n'est pas seulement un phénomène romain ou latin. En voici quelques exemples pour vous montrer que ce n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Ainsi, les Athéniens reliaient-ils le petit sanctuaire d'Artémis Brauronia de l'Acropole au vieil Artemision de Brauron. La procession des Oscophories partait du temple de Dionysos à Athènes et se dirigeait vers le temple d'Athéna à Phalère, près du Pirée. Les objets sacrés d'Éleusis sont transportés d'Éleusis dans l'Éleusinion d'Athènes avant d'être ramenés à nouveau à Éleusis. Lors de la fête des Skyra, une prêtresse et deux prêtres se rendaient de l'Acropole en un lieu appelé Skyra. Enfin, si nous allons dans le Péloponnèse, une procession portait une statue de Corée de Hélos en Laconie dans un Éleusinion situé dans le Taygète, près d'un lieu appelé Lapithéo. Par conséquent, voilà quelques exemples de ce type de procession en pays grec qui continue jusque sous l'Empire. Ces processions semblent avoir été un rite permanent quand il s'agissait de relier un lieu de culte situé sur le territoire d'une cité et la ville, et éventuellement un lieu de culte situé dans la ville. Il y a toujours ce doublement. À Rome, malheureusement, c'est pour cela que j'ai dû citer des exemples grecs, nous ne disposons que de quelques rares indices de l'existence de telles processions. Nous savons que les Arvales se déplaçaient, peut-être avec une statue cultuelle, car lors de la célébration du sacrifice à Deadia, dans la résidence privée du président annuel des Arvales, une statue de la déesse est mentionnée. Ce sanctuaire urbain comporte une statue cultuelle. D'autre part, au sanctuaire de Dia, il est question de l'onction des déesses, au pluriel, ce qui concerne sans doute, je le pense, Deadia et la mère des Lares, qui sont toutes les deux bénéficiaires du sacrifice, comme nous l'avons vu, mais on peut toujours supposer qu'il s'agit en fait de deux statues de la même déesse Deadia, dont l'une aurait été transportée à la Maliana à partir de la demeure du président de la confrérie, puis à nouveau ramenée dans celle-ci. C'est toujours une possibilité. Nous savons aussi que l'on partait en groupe, mais je me demande si le rédacteur aurait écrit les déesses à ce moment-là. Il aurait parlé de la déesse ou des statues ou n'importe quoi. C'est pour cette raison que je préfère l'autre solution. Nous savons aussi que l'on partait en groupe au temple de Force Fortuna du 6e mille à celui de Robigo du 5e mille. La procession de la grand-mère jusqu'à l'Almo, cet affluent du Tibre situé à un mille en aval du Tibre, est également connue. Mais c'est à peu près tout ce que nous avons à Rome, car il n'existe pas d'évocation d'un déplacement solennel, par exemple des magistrats dans les monts Albins ou à Lavinium. L'exemple grec confirme en tout cas la présomption émise que le lien entre les lieux de culte du territoire était mis en évidence par le déroulement d'une procession à partir de la ville et forcément aussi par un retour à la ville. Pour l'instant, nous avons cité des déplacements vers des lieux relativement proches de la ville. Comment se déroulait alors le culte concernant les autres sites lointains de l'Ager Romanus, Nemi, Lavinium, Ostie, Lanuvium, Tusculum? Pour Ostie, nous avons vu que les cultes célébrés dans le port de Rome l'étaient également dans la ville, le même jour, et que l'on revenait après un ou deux jours, plusieurs jours. On peut imaginer que, comme pour Deadia ou Force Fortuna, le transport sur le Tibre permettait de rejoindre facilement le second lieu de culte situé à Ostie et d'y célébrer le sacrifice et éventuellement des jeux le jour même de la célébration effectuée à Rome. En une ou deux heures, on peut être à Ostie. Il est toutefois à noter qu'il n'est pas question dans ces cas de jeux à Rome comme lors des féries latines. Le culte de Diane à Nemi est un exemple parfait du fonctionnement d'un double culte. Le culte régulier et l'autorité religieuse à Nemi n'étaient plus, à l'époque impériale, un rex nemorensis, un roi de Nemi, ou du bois, de rang servile, un esclave. Nous ne savons rien de l'époque républicaine. Tout ce que nous avons, ce sont des documents d'époque impériale. Sous l'Empire, c'était le dictateur d'Aricie, magistrat municipal de la cité, qui était le maître des lieux. C'est le terme dans cette dédicace à Diane de Nemi et à Vesta, de dictatori, au dictateur, et puis vient le nom du dictateur. Nemi se trouvait en effet sur le territoire du municipe d'Aricie, et c'est pour ça que le dictateur d'Aricie était le maître du bois sacré. C'était lui qui en était responsable. Et un dédicant mentionne dans le bois sacré de Nemi Trajan comme autorité en tant que dictateur. Parce que, bien sûr, les empereurs pouvaient être régulièrement élus à des dignités de ce type. Il est nommé, donc, dans cette inscription, comme vous pouvez le voir, en tant que dictateur. Et c'est une date, en fait, qui est donnée, c'est sous la dictature de Trajan à Aricie que toute cette inscription, cette dédicace a eu lieu. Le dédicant, qui s'appelle Cornelius Tropimus, est un Romain de Rome qui était un personnage dans son quartier, apparemment, il le dit, dans la 14e région, c'est-à-dire au Trastevere, où il était curateur du Vicus Quadrati, c'est-à-dire la route de Quadratus, la rue Quadratus, comme nous dirions. Il fait une dédicace à Diane Nemorensis et à Vesta, avec son épouse, qui s'appelait Lania Tionnoe, Ce qui implique que cette dédicace est privée, n'est-ce pas, qu'il agit à titre privé. L'inscription date de l'année 100 de notre ère. Trajan est cité comme dictateur, comme j'ai dit, avec son préfet, c'est-à-dire son remplaçant, parce qu'il est évident qu'il ne peut pas expédier les affaires courantes et même peut-être extraordinaires du sanctuaire, parce qu'il n'est pas sûr qu'il était là, et deux autres magistrats qui sont à son service, son secrétaire, etc. Cornelis Trophimus associe à sa dédicace la déesse Vesta, parce qu'il était boulanger de son état, Pistor Romaniensis, vous l'avez en toutes lettres après son nom, comme il l'écrit dans son latin, qui est moins précis que ses connaissances administratives. Était-ce la même chose sous la République ? Était-ce déjà un dictateur d'Aricie qui avait la haute main sur le bois sacré ? C'est possible. En tout cas, comme je l'ai dit, nous ne connaissons pas de clergé romain particulier. Nous avons vu que Claude y faisait offrir des sacrifices expiatoires par les pontifes, ce qui est de nouveau significatif. Par ailleurs, les Romains y sacrifient, comme notre Trophimus. Les matrones romaines y font des pèlerinages. Mais Rome possède aussi son propre temple de Diane sur l'Aventin. Dédoublement à nouveau. Or, ce temple, les textes nous le disent, était une filiale du temple de Némie. Diane était même venue à Rome avec Égérie, la source, qui possédait une source dans le bois sacré des Camènes, au début de la Via Appia, à l'extérieur de la porte Capène, vers le premier mille, une source dont l'eau servait chaque jour au nettoyage du sanctuaire et de la maison des Vestales. Nous en avons parlé il y a quelques années. Le temple de l'Aventin est attribué à Servius Tullius et il se donnait, d'après Varron, comme un temple commun des Latins. Donc la référence à Némie est explicite. Ce temple a été restauré à l'époque d'Auguste, mais malheureusement son emplacement n'est toujours pas connu avec précision. Diane Aventine était la déesse matronale typique comme la Diane de Némie. Son anniversaire tombait le 13 août, le même jour que celui du temple de Némie. On pourrait aussi dire l'inverse, que Némie tombe le jour de l'anniversaire de Rome. Mais admettons que Rome ait adopté l'anniversaire de la Diane de Némie. Nous ignorons si la fête de Némie débutait à Rome, si les matrones commençaient leur procession avec des torches au temple de l'Aventin. En tout cas, ce jour-là était fêté le 13 août par les matrones qui se lavaient alors les cheveux rituellement et se coiffaient avec grand soin. Ce qui nous importe, c'est la concomitance entre la fête romaine et la fête de Némie, soulignée par le transfert à Rome d'une divinité liée à la Diane de Némie, la source Égérie, dont on a peut-être découvert le nymphée. Je vous ai montré au début de ce cours les images et les plans. Pour les autres lieux, il y a même une procession, mais elle est privée ici, puisque c'est les matrones qui rejoignent à pied Némie. Mais malheureusement, nous ne savons rien des magistrats ou d'autres responsables. Pour les autres lieux de culte, la situation est plus complexe, puisque nous n'avons pas de renseignements plus précis sur le doublement des lieux de culte. Nous avons amplement parlé des sacrifices offerts à Lavinium par les magistrats et les prêtres de Rome, en présence du peuple rituel des Laurentes de Lavinium, qui sont eux-mêmes des Romains. Les sacrifices s'adressaient aux Pénates et à Vesta, d'une part, à Indiges, de l'autre. Le premier commentaire qu'il faut faire, c'est que ces sacrifices ne coïncidaient pas avec une fête régulière du calendrier romain. Leur date était en effet mobile et calée sur celle également mobile des féries latines. Nous avons vu en effet que les cérémonies de Lavinium avaient lieu 10 jours après celles du Monte Cavo. Il est donc difficile de trouver la fête correspondante dans le calendrier romain. Il existe toutefois à Rome des temples des Pénates du peuple romain et précisément un sanctuaire de Vesta. Cette dernière est installée, d'après les Romains, depuis les origines en bordure du forum romain. Donc là, c'est plus romain que Lavinate. Les Pénates du peuple romain des Quirites, quant à eux, étaient vénérés publiquement avec Vesta et possédaient sur la Velia, près du temple, du sanctuaire, pardon, de Vesta, un petit temple, une chapelle plutôt, qui est attestée formellement par les textes en 167 et 165 avant notre ère, et dans d'autres inscriptions. Malheureusement, on ne l'a jamais retrouvé, ce temple. Il y a des discussions qui continuent. Comme la ville d'Albe, les Romains l'ont fait, les Romains auraient créé, en quelque sorte, une filiale romaine pour ces cultes, pour Vesta et les Pénates notamment, qui, d'après le mythe, ne purent être enlevés de leur lieu de culte originel, à Lavinium, et toujours les statues revenaient à Lavinium quand les autorités d'Albe les transportaient dans la nouvelle colonie, dans la nouvelle métropole latine. En revanche, ce que nous avons à Rome aussi, nous n'avons pas de mention non plus d'un culte de Jupiter Indiges à Rome. Ça n'existe qu'à Lavinium. En revanche, la source qui coulait à l'angle de la maison des Vestales au Forum, la fontaine Juturne, existait aussi à Lavinium. Elle venait aussi de Lavinium. On ne peut manquer donc ici de penser à la source Égérie, qui elle aussi est venue d'un sanctuaire fédéral, comme Lavinium, et participe désormais à la vie religieuse de Rome. Tout semble donc indiquer que les Romains ont transféré des cultes de Lavinium à Rome, et il est possible que les prêtres et consuls romains aient d'ailleurs sacrifié à Rome, aux Pénètes et à Vesta, entre autres, avant de se rendre à Lavinium. Parce que même si nous n'avons pas de fête inscrite sur le calendrier, puisqu'il s'agissait d'une fête mobile, une fois que l'on connaissait les dates, il est possible qu'avant de partir, ils aient fait un sacrifice au Forum à ses divinités. Le transfert à Rome de cultes partagés avec des peuples et des cités soumis est attesté également pour Lanuvium, l'autre grande ville latine. Si pour Lavinium toutes les données baignent dans les brumes de l'histoire originelle, les données sont plus claires à Lanuvium. Après la défaite des Latins, le culte de Juno Caespes a été mis en commun avec les Romains et des sacrifices consulaires étaient célébrés dans le temple de cette déesse à Lanuvium. Nous en avons parlé. Or, en 194, un temple de Juno Caespes, et non Matuta comme le manuscrit de Tite-Live le comporte, fut construit par Gaius Cornelius Cethegus sur le Forum Holitorium, près du théâtre de Marcellus. Son anniversaire tombait le 1er février, et la statue de la déesse était la même qu'à Lanuvium. Elle était représentée couverte d'une peau de chèvre, dont la tête encore pourvue de cornes la couvrait comme un casque. Elle portait le bouclier dans une main et la lance, c'est une Junon guerrière, ainsi que des chaussures à pointes relevées. Vous le voyez peut-être, c'est des chaussures dont les pointes se relèvent. Et c'est typique des chaussures archaïques, et donc elle a cette tenue un peu étrange. Il n'est pas absurde de supposer que cette Juno Caespes recevait un culte simultané à Rome et à Lanuvium lors du sacrifice consulaire dans la cité latiale. En tout cas, Lanuvium apparaissait comme étroitement lié aux cultes urbains des Romains. Dans ce cas, comme dans celui de Lavinium aux Hosties, pardon, nous savons que les cultes suburbains sont des cultes publics de Rome. Le temple construit à Rome soulignait cette mainmise romaine. Dans une série d'autres cas, ceci est moins clair, mais semble obéir à la même règle. On songe évidemment ici à un rite particulier, le rite de l'évocatio, qui consistait littéralement à appeler à l'extérieur, c'est-à-dire qui consistait à appeler une divinité qui protégeait une cité à laquelle les Romains faisaient la guerre, à rejoindre le camp romain contre la promesse de recevoir à Rome un culte équivalent ou plus important même. On a beaucoup écrit sur l'évocatio, en contexte militaire ou non, parce que vous pouviez aussi inviter chez vous une divinité sans faire la guerre à la cité. Mais on ne connaît pas très bien la pratique rituelle elle-même, au point qu'on a pu mettre en cause même, en doute, sa réalité. du moins à l'époque historique. C'est le cas du livre de Gustafsson, notamment, qui pense que c'est une reconstruction d'antiquaire, d'érudit de la fin de la République. Le récit sur l'introduction de Junon Reine à partir de Veille est longuement raconté par Tite-Live. La tradition du IIIe siècle de notre ère rapporte également l'évocation de Junon lors du siège de Carthage en 148 avant notre ère, dont Macrobe donne même, voilà le texte de Servius qui parle de l'évocatio de Junon, et Macrobe a même conservé la prière d'évocation à la Junon de Carthage. En tout cas, évocation ou non, Rome avait tendance à s'occuper de près des cultes des cités soumises. Dans la définition du terme municipalia sacra, littéralement rite des collectivités civiques, le grammairien Festus précise les conséquences locales de cette pratique. Il s'agit d'un texte très intéressant qui concernait les obligations religieuses des cités qui sont devenues municipes romains. Ce ne sont pas des colonies romaines, mais des cités qui conservent en grande partie leurs institutions traditionnelles. Pour ce qui est de la religion, les pontifes ont voulu qu'ils conservent leurs obligations religieuses antérieures. C'est ce que dit ce texte. Et c'est ce que nous avons effectivement constaté dans un certain nombre des exemples examinés. Octavien Auguste, au début de l'Empire et de notre ère, a manifestement restauré partout les pratiques ancestrales qui s'étaient éteintes, non seulement à Rome, mais aussi dans les cités des environs. Nous en verrons d'autres exemples, mais rappelons que ce fut le cas de Caenina, de Sucinium ou de Cavum sur le mont Albin. Ça, nous l'avons bien vu. Au besoin, c'était des prêtres romains qui assumaient tous ces devoirs. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse ici. Les cultes et divinités en cause sont plutôt ceux que les Romains installèrent à Rome après la conquête. Je veux voir le doublement des cultes. D'après les chrétiens Arnob, les Romains étaient soucieux de respecter les devoirs religieux des cités vaincues. Ils considéraient que les Romains jugeaient qu'ils étaient désormais soumis eux-mêmes à ces obligations religieuses. Et afin d'y répondre, ils auraient suivi deux procédures. Soit ils confiaient le soin du culte à certaines familles, soit ils en faisaient des cultes publics, collectifs, du peuple romain. La plupart de ces cultes sont en effet devenus des cultes publics. Mais autrefois, il n'en était pas forcément ainsi. L'exemple du culte importé à Rome et confié à une famille dont Arnob parle, est très vraisemblablement celui d'Hercule à l'Ara Maxima, au Grand Hôtel, sur le Forum romain. Ce culte provenait de Tibur, Tivoli, et il était confié à deux familles, les Pinarii et les Potitii, jusqu'à ce qu'en 312, avant notre ère, le censeur Appius Claudius en fit un culte directement assumé par la cité de Rome. Nous en avons parlé il y a quelques années. Le processus du dédoublement cultuel pour revendiquer la maîtrise sur un temple de l'espace suburbain est également attesté en pays grec. Nous en trouvons un exemple à Mycène. Comme pour confirmer son emprise sur le sanctuaire d'Artemis Limnatis, situé entre elle et Sparte, et qui fut l'objet d'une interminable contestation, la cité de Mycène, construite à l'intérieur de ses murailles, près de la porte de Laconie, donc l'entrée de la ville des murailles, des très grandes murailles de Mycène qui vont vers l'intérieur de la Laconie et vers Sparte, elle construit un sanctuaire suburbain de cette déesse qui était au seuil de la ville, qui était un peu à l'extérieur. Et Sparte également, qui contestait ce temple d'Artemis Limnatis, aux limites, pas celui-là, mais celui qui était entre les deux territoires, possédait elle aussi, dans l'espace immédiatement suburbain, un temple d'Artemis Limnatis, ou Hortia. Ce qui nous intéresse dans tout ce processus, qui est en fait très mal connu, et dont les témoignages proviennent essentiellement de définitions laconiques ou de débats polémiques très généraux, c'est le traitement par Rome des divinités principales des cités voisines, du Latium et puis de l'Italie. Nous pouvons observer en effet que progressivement, toutes ces divinités reçurent un temple et donc un culte dans la ville, selon le principe du doublement cultuel que nous avons déjà souligné et qui, je vous l'ai dit, n'est pas isolé parce que vous avez sous les yeux le cas que j'ai choisi dans le Péloponnèse qui montre que c'est tout à fait banal. Nous avons évoqué ici le cas de l'Avinium, de l'Anuvium et du Monte Cavo. Mais comme je l'avais dit, il y a d'autres exemples. D'après la tradition, notamment sur l'Evocatio, la Junon de Veille, Veille est une ville qui est à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Rome. Donc, d'après la tradition, la Junon de Veille reçut en 392 avant notre ère un temple sur l'Aventin, dont l'anniversaire tombait le 1er septembre. Nous avons vu que ce cas est sans doute particulier puisque les sources en font une evocatio. Or, cette tradition n'est guère crédible. Elle l'était tant que le temple de Junon reine était identifié à l'édifice de la Piazza d'Armi. La Piazza d'Armi, c'est l'endroit qui se trouve ici et qui était identifié jusqu'à récemment au temple de Junon reine étrusque, n'est-ce pas ? Mais depuis que Mario Torelli a prouvé avec une certaine vraisemblance qu'il faut chercher le temple de Junon reine à l'endroit que j'ai entouré, à l'extrémité du Piano di Comunità, à 500 mètres, plus de 500 mètres, les choses ont bougé, car dans ce lieu de culte, l'activité religieuse, contrairement à ce qui se passe dans le temple de la Piazza d'Armi, où ça s'arrête nettement au IVe siècle, continue sans interruption de l'époque étrusque à l'époque impériale. Donc, si on accepte cela, il n'y a pas d'exportation de Junon reine. Elle n'a pas quitté Veille. Torelli suppose que ce n'est pas le culte qui a été transféré, mais seulement la statue cultuelle. C'est une possibilité, mais je ne crois pas qu'on ait besoin d'entrer dans ces détails pour être heureux, parce que rien ne prouve ce transfert. En tout cas, le fait est que nous sommes en présence ici d'un doublement cultuel après la prise de Veille, qui a été interprété comme une evocatio à l'époque tardive, à l'époque d'Auguste dont nous avons parlé, par les érudits. Et en fait, le culte continuait à Veille et à Rome. Malheureusement, nous ne savons rien des échanges. Est-ce qu'il y avait des prêteurs ou des prêtres qui allaient sacrifier à Veille ? C'est pas loin. C'est une possibilité, mais hélas, nous n'en savons rien. Un autre cas pourrait être celui de Castor et Pollux sur le forum romain, les Castores, comme disaient les Romains. L'archéologie et la tradition écrite semblent concorder pour dater le début de ce culte du 5e siècle, à la suite de la bataille du lac Régil dans les monts Albains, lorsque les Romains défirent les Latins. Le temple aurait été voué après cette victoire, en 499, et dédié en 484 avant notre ère. On ne peut manquer de mettre en rapport ce temple avec les sacerdotes Tusculani, les prêtres de Tusculum ou les prêtres à Tusculum, qu'il s'agisse d'une institution plus ancienne, antérieure à la soumission définitive de Tusculum en 377 ou non. On peut se demander si, après la conquête de la cité, le culte des castors à Tusculum n'a pas été concélébré par Rome et par Tusculum, entraînant la construction d'un deuxième temple à Rome. Ce serait exactement le même cas que pour Junon Sospes à Lanuvium, temple à Lanuvium et Rome. Prêtre Tusculani à Rome, mais malheureusement, malgré de nombreux témoignages cultuels d'époque impériale à Tusculum, nous n'avons pas la moindre trace d'une participation de magistrats romains au culte de cette cité sous l'Empire. Deux autres exemples proviennent d'Étrurie méridionale. La cité archaïque de Capène est censé être entré, peu après la chute de Veii, donc à la fin du 5e siècle, dans l'orbite romaine. Et l'on suppose que c'est à cette date que la déesse Féronia, dont le bois sacré était géré par la cité de Capène, fut installée à Rome sur le champ de Mars. Le bois sacré de Féronia était célèbre pour sa richesse. Il fut d'ailleurs pillé en 211 par les troupes d'Hannibal. Situé au pied du mont Soracte, à environ 12 milles de Rome, le bois sacré représentait, avec les rites d'Apollon Soranus, sur le mont Soracte, le principal culte de Capène. Nous ignorons tout du cadre administratif de la vie religieuse dans ces lieux de culte de Lucus Féronier et du Soracte sous la République, et aussi après la soumission de Capène. Il existe, certes, un texte de Tite Live qui rapporte un oracle sibyllin de 217 avant notre ère, au pire moment de la Deuxième Guerre punique, qui enjoignit aux femmes de statut affranchi d'offrir un cadeau, de porter un cadeau à Féronia. Féronie donum daretur, qu'un cadeau soit donné à Féronia. Quelle Féronia ? S'agit-il déjà de celle du territoire de Capène ou du temple que la déesse avait à Rome ? Comme Georg Fisso va la supposer, l'absence de toute autre mention dans le texte de Tite Live, qui est assez sec comme vous pouvez voir, signifie plutôt que ce cadeau concernait le temple de Rome, qui est donc attesté à cette date, pour la fin du IIIe siècle. Est-ce que Féronia avait été purement et simplement importée ? Le pillage du bois sacré par Hannibal prouve que le bois sacré continuait à exister sur place à l'époque du rite matronal que nous venons d'évoquer, et il n'est pas audacieux de supposer qu'il devait continuer à dépendre de la ville de Capène. Entre l'époque de la Deuxième Guerre punique et le début de notre ère, les sources mentionnent uniquement des prodiges, des signes, coups de foudre, etc., constatés au bois sacré de Féronia. Tout le reste demeure obscur, donc nous ne pouvons pas en faire grand-chose. Peut-être Capène, d'ailleurs, s'était-elle déjà vidée de sa population. Les choses évoluent à la fin de la République, comme toujours. Négligence ou simplement dépopulation ou les avatars des guerres et des guerres civiles, toujours est-il qu'autour de 46, avant notre ère, Jules César déduisit une colonie de vétérans à Capène. La tentative césarienne doit sans doute être interprétée comme une manifestation d'intérêt pour ce lieu symbolique. César aurait envisagé, si cette présomption était exacte, de récupérer l'organisation juridique préalable, Capène avec son bois sacré voisin de Féronia. Mais apparemment, la tentative échoua, parce qu'après Axium, une nouvelle colonie, la Colonia Iulia Felix Lucoferoniensis, fut fondée à Lucus Féronier même, en quelque sorte avec le lieu de culte comme centre urbain. Pourquoi est-ce que la tentative de César a échoué ? Mais c'est parce que les temps sont très brefs, et qu'en plus, on est dans une guerre civile, donc il est très vraisemblable que César, enfin que ses vétérans, ils n'ont même pas eu le temps de s'installer quand une nouvelle guerre commençait et qu'ils ont dû être enrôlés à nouveau dans les armées de l'un des triumvirs. Donc ça repart avec Auguste, mais cette fois-ci à Lucus Féronier. Il abandonne Capène, il choisit Lucus Féronier, le lieu du culte. Le bois sacré et les terrains de Féronia furent donc transformés en cité, en colonie, et cette cité subsista au moins jusqu'au IIIe siècle de notre ère, puisqu'elle fit encore une dédicace honorifique à Galien, à l'empereur Galien en 265 de notre ère. La colonie-temple possédait un centre monumental, ou plutôt elle consistait en un centre monumental qui était en fait une grande annexe de la, grande villa des Volusi. Mario Torelli m'a raconté que quand on regarde les tuyaux d'eau, d'adduction d'eau pour la ville, qui est donc un peu plus loin, la colonie, et pour la villa, Le tube de la, du centre monumental est gros comme ça, celui de la villa est gros comme cela. Donc on voit très bien où était la réalité démographique. Ce sont vraiment des temples colonies, des temples cités, des monuments religieux plus qu'autre chose. Cette colonie, donc, je viens de le dire, qui se situe à proximité, là vous êtes à proximité du péage de l'autoroute du Soleil vers Florence, ou venant de Florence. Cette colonie était donc relativement artificielle. Elle était en gros limitée à un lieu de culte et donne un bel exemple des intentions d'Octavien. L'initiative consistait essentiellement à assurer un statut autonome et romain à ce site fameux, jadis pillé par Hannibal, et dont la valeur suprarégionale ne fait aucun doute. Ce lieu de mémoire italique se trouvait ainsi restauré et intégré dans la communauté romaine. En même temps, il bénéficiait sans aucun doute de crédits publics et reçut au moins un contingent de colons pour maintenir la fiction. Et puis ça a continué à vivre. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore rencontré ce type de restauration. Dans des lieux plus proches de Rome, Auguste se contentait de restaurer, de reconstruire ou de construire. Mais il ne transformait pas une obligation religieuse en cité autonome, en institution. Nous sommes toutefois à nouveau en présence de la tendance romaine à transformer un culte donné du suburbium en obligation religieuse urbaine de la ville. Cette fois-ci, l'obligation religieuse était soustraite à Capène et attribuée à une colonie romaine qui portait dans son nom celui de la famille du prince, Colonia Iulia Felix, etc. Ce n'était pas la première fois, quand même, que ceci se produisait. La manière dont le dictateur Sylla avait défini vers 83 avant notre ère la situation du sanctuaire de Diane Tifatine, la Diane du mont Tifata, près de Santa Maria Capua Vetere, où il est aujourd'hui intégré dans, dans l'église de Sant'Angelo in Formis, paraît avoir tracé la voie pour ses successeurs. Le temple de Diane du mont Tifata, au-dessus de Capoue, était sans conteste le sanctuaire le plus célèbre de Campanie. Après sa victoire sur Norbanus, acquise sur le mont Tifata, sur les flancs du mont Tifata, Sylla, le dictateur Sylla, donna des sources et des territoires au sanctuaire. Cette donation fut cadastrée après 80 ans par Auguste, une fois de plus, et réaffirmée par Vespasien, comme cette borne, comme cette inscription le rappelle. Jointe au privilège du droit de propriété pour la divinité, l'attestation à l'époque impériale d'un préfet pour dire le droit prouve que le sanctuaire et les terres de Diane formaient désormais une circonscription indépendante du point de vue administratif. Les lieux de culte bénéficiaient de toute évidence d'un grand pouvoir symbolique, une renommée qu'Hannibal pourrait également avoir exploitée déjà, puisque son camp se dressait, quand il était dans la région de Naples, sur le mont Tifata, et c'est là donc qu'il se prélassait dans le luxe de Campanie. Et vous trouvez aussi, c'est intéressant de trouver Hannibal aux deux endroits où Octavien ou Sylla font ce genre de restauration, à Lucus Feronia, au mont Tifata. Sylla et ses successeurs enlevèrent donc ce lieu de culte à Capoue pour en faire une entité autonome, ressemblant à un municipe ou à une préfecture. On ignore la nature exacte de son statut, mais le principe de l'initiative est transparent. Il s'agissait de soustraire ce fameux sanctuaire et site à toute influence extérieure pour le rendre autonome, autrement dit dépendant de Rome seule. Le culte de Diane Tifatine devenait une obligation religieuse romaine. Son territoire devenait une partie directe de l'Ager Romanus. La même initiative confisquait en quelque sorte la déesse pour Rome et ses intérêts. Mais fermons cette parenthèse et revenons à Capène. Qui avait à la fin du 1er siècle avant notre ère la haute main sur le sanctuaire d'Apollon Soranus sur le mont Soracte? Le sanctuaire était bien connu. Dans sa description de Lucus Feronia, Le géographe Strabon se réfère en fait au rite du Soracte, au cours duquel des personnes possédées traversaient la braise les pieds nus. Pline l'Ancien, quant à lui, voilà le texte de Strabon, Pline l'Ancien, quant à lui, décrit également les rites des hirpis sorani, littéralement des loups hirpus, un terme italique, du Soracte, et note qu'un senatus consulte romain leur avait accordé l'immunité, la dispense du service militaire et des impôts. Or, même si l'immunité accordée aux familles des hirpis était peut-être un privilège ancien, il est vraisemblable qu'elle avait dû être donnée dans un cadre institutionnel, qui est intéressant. Voilà le texte de Pline. Les hirpis étaient immunes en raison de leur responsabilité sacerdotale, comme l'étaient tous les prêtres de Rome, ou sur le plan local aussi, ceux des prêtres des colonies romaines, par exemple. À moins qu'il ne s'agisse d'une reprise directe du culte local des hirpis sorani par la ville de Rome. On pense à l'exemple des Caninenses, dont nous avons traité il y a quelques séances. Cette immunité a pu être accordée, évidemment, aussi aux hirpis dans le cadre d'une cité locale. Les deux solutions sont possibles. Rome, une cité locale, une colonie, un municipe. Mais un détail me paraît recommander la solution locale. Pline mentionne l'exemption à titre définitif du service militaire de toutes les charges. Or, si les charges, c'est-à-dire les impôts et les obligations de se faire élire à des fonctions politiques, renvoient plutôt à leur cité qu'à Rome, étant donné le niveau social de ces prêtres, la dispense militaire me paraît plutôt concerner Rome. L'hypothèse qu'il s'agisse d'un culte local promu au rang de sacerdoce romain est suggestive. Ça pourrait nous plaire, car elle nous renverrait une fois de plus aux restaurations d'Octavien ou d'Auguste et aux prêtrises liées à ces restaurations. Mais malheureusement, aucune fonction proprement romaine de ce type n'est connue, et il est probable que la fonction était locale. Il faut donc supposer que la dispense militaire doit être comprise comme une mesure locale quand la cité était obligée de fournir des recrues pour l'armée romaine, ce qui est également possible. Ceci dit, de quelle cité s'agissait-il ? Il peut s'agir du municipe de Capène, d'après ce que j'avais dit, un municipe qui est parfaitement attesté sous l'Empire. Il avait été un peu regonflé de nouveau par des immigrants. Deux inscriptions à Apollon y sont attestées, mais le dieu ne porte pas l'épiclèse Soranus, typique de l'Apollon du mont Soracte. Une autre solution consisterait à attribuer la prêtrise à la colonie voisine de Locus Feroniae. Tout cela est très proche, n'est-ce pas ? Si c'était le cas, s'il est vrai qu'Auguste avait attribué le sanctuaire d'Apollon Soranus à la colonie de Locus Feroniae, on pourrait facilement expliquer la confusion faite par Strabon entre les rites des hirpis et ceux de la fête de Feronia. L'erreur de Strabon ne proviendrait donc pas d'une de ses sources, mais du contexte dans lequel lui-même a découvert ce culte, c'est-à-dire dans un document sur la fondation de la colonie de Locus Feroniae. Il s'agit bien sûr d'une hypothèse, mais ce qui se passa à peu près contemporainement à Hispellum, un peu plus dans le nord, en Ombrie, montre que ce n'est pas absurde. J'en ai déjà parlé. Quand la colonie latine fut créée en 241, à Spolète, Rome lui attribua le sanctuaire ombrien des sources du Clitumne. Et au début de son principat, Auguste donna ce sanctuaire à Hispellum, qui est situé ici, n'est-ce pas, en haut, à Hispellum, une colonie romaine qu'il venait de fonder à l'est de Spolète, vraisemblablement sur l'emplacement d'un autre lieu de culte ombrien, celui de la Villa Fidelia, c'est le nom qu'il porte aujourd'hui. Il n'est donc pas impossible qu'Auguste ait réuni dans la colonie de Locus Feroniae les deux sanctuaires importants de la région, comme il le fait à Hispellum, Spello. Les hirpis ont dû recevoir l'immunité fiscale dans la colonie, peut-être par le senatus consulte qui réglait cette question. Et c'est peut-être ce senatus consulte que Strabon a consulté. Et peut-être la fête d'Apollon Soranos tombait-elle désormais le même jour que l'anniversaire du temple de Féronia ou les jours suivants, d'où l'erreur de Strabon qui place le rite spectaculaire des loups du Soracte le jour de la fête de Féronia, c'est-à-dire le 13 novembre, si nous suivons le calendrier de Rome. En revenant à Rome et à notre enquête, nous avons donc encore un culte suburbain qui est importé à Rome, sans doute entre 290 et 218 avant notre ère. Le temple de Féronia fut construit sur le champ de Mars au Largo Argentina. Et je vous ai dit que donc il est formellement attesté par une décision qui date de l'année 217. Donc à ce moment-là, elle existait, mais si je le date entre 290 et 218, vous comprenez, si vous connaissez un peu de latin, que ça tombe malheureusement dans une partie perdue de l'œuvre de Tite-Live. Et donc c'est dans cette période qu'il a dû en parler, puisqu'il n'en parle ni avant ni après de ce transfert, mais que déjà en 217, le temple existe à Rome. Voilà donc un autre exemple de ces échanges avec le suburbium. Apollon Soranus ne sera jamais représenté à Rome. Et ça, c'est aussi un argument pour dire qu'il s'agit d'un culte local, mais qui n'a pas eu son double à Rome, parce qu'il était évidemment moins important que le culte de Lucus Féronien. Toujours dans la même région de Lucus Féronien se trouve la cité de Falerii, une cité que Rome a détruite en 241 avant notre ère. Et on voit, vous l'avez vu, on voit le Soracte à partir de Falerii. La tradition rapporte que les Romains auraient transféré à Rome les déesses Junon, Curitis et Minerve. Adam Zulkowski, dans son ouvrage sur les temples républicains, La Médio-République, a établi de façon presque définitive que le temple de Junon Curitis, qu'il place sur le côté sud du Largo Argentina au champ de Mars, à côté d'ailleurs celui de Féronia, ce qui n'est peut-être pas sans intérêt, abritait une déesse provenant de Falerii et non de Tivoli, comme on l'a admis. Il a également prouvé que la déesse appelée Minerve, la Minerva capta, Minerve prise, captive, qui serait venue de la même cité de Falerii, n'est qu'une légende faite à partir de l'épiclèse de la déesse, qui avait peut-être une chapelle, semble-t-il, sur le Célius à Rome. Mais on ne sait rien de précis sur cette déesse. Citons encore une autre divinité, Vertumnus, qui nous éloigne de Rome, qui aurait été installée à Rome après la prise de Volsinii, Orvieto, en 264 avant notre ère, mais ici nous sommes de nouveau dans des eaux troubles. Alors que certains savants reconnaissent dans Vertumnus le dieu étrusque Voltumna, vous avez ici les gens qui pensent cela, d'autres considèrent qu'avec Varron, que Vertumnus existait à Rome avant la prise de Orvieto, puisque son introduction à Rome remonterait à Titus Tacius. Pardon, je vais un peu vite là. Non, il n'est pas là. Et que l'assimilation du dieu romain au dieu étrusque par certains érudits antiques est une interprétation due à des jeux de mots. En fait, lorsqu'on examine le nom du dieu de l'Aventin, il s'appelle toujours Vortumnus, même si Varron donne aussi le nom de Vortumnus à la statue du dieu qui se trouvait au Forum romain, près du temple des Castors. Vortumnus, que ce soit une transformation de Voltumna, peut être exacte, que les auteurs latins emploie indistinctement Vertumnus ou Vortumnus est également vrai, mais je note que dans son histoire, Tite-Live appelle le dieu d'Orvieto toujours bien Voltumna, comme il se doit. Quoi qu'il en soit, le temple de l'Aventin est considéré par les Romains comme l'œuvre de Marcus Fulvius Flaccus, le consul de 264, après la prise de Volsinii, et les auteurs modernes considèrent généralement qu'il s'agit d'une evocatio. Je vais voir si je peux retrouver ces textes. Il s'est passé quelque chose, là. J'ai peur que... ces textes. Voilà. Donc vous voyez comment les Romains désignent les textes du le temple du, de l'Aventin, Vortum, le dieu du, de l'Aventin, Vortumnus. C'est autre chose. Donc, Zulkowski, par exemple, vous l'avez vu, considère qu'il s'agit d'une évocatio. Mais donc, vous avez deux idées opposées pour Vertumnus. D'une part, des gens qui disent « c'est le dieu étrusque, il entre au milieu du IIIe siècle et c'est le temple de l'Aventin qui concerne ce dieu. » D'autres qui disent « pas du tout, avec Varron, c'est un dieu sabin, un vieux dieu italique d'Italie centrale qui est là depuis toujours et qui est très romain. D'ailleurs, il a une statue au bord du forum et c'est de Vertumnus qu'il s'agit. Après, il y a des jeux de mots. L'argument peut être décisif est que Tite-Live ne parle jamais de Vortumnus, mais toujours de Voltumna quand il parle de la divinité d'Orvieto. Donc, voilà le dossier. Ça ne peut pas nous être très utile. Ça pourrait l'être, mais hélas, nous avons juste un temple transporté sur l'Aventin après la prise et le triomphe sur Volsigny. Le sort d'une divinité un peu plus proche, de Fortune Primigenia de Préneste, illustre toujours le même comportement des Romains à l'égard des lieux de culte de leurs voisins latins. Le célèbre oracle était depuis longtemps sous le pouvoir des Romains et fut utilisé officiellement par eux, même si le consul Lutatius Catulus Cerco, c'est celui qui mit fin à la première guerre punique, se fit réprimander par le Sénat en 241 avant notre ère parce qu'il avait voulu consulter, à propos des affaires publiques, la déesse de Préneste. En 194, toutefois, Publius Sempronius Tuditanus dédia au Quirinal, à Fortuna Primigenia, le temple qu'il lui avait promis par un vœu en 204, lors d'un combat qui avait eu lieu près de Crotone, en Calabre. Son anniversaire tombait le 25 mai, et les calendriers épigraphiques nomment la déesse tantôt Fortuna Primigenia, tantôt Fortune publique du peuple romain des Quirites. La même déesse, donc d'origine prénestine, reçut encore d'autres temples au Quirinal, l'un qui avait son anniversaire le 13 novembre, l'autre le 5 avril, ce qui eut pour conséquence que cette zone du Quirinal fut appelée At Tres Fortunas, aux Trois Fortunes. Le temple dont l'anniversaire tombait le 5 avril pourrait être intéressant pour notre enquête, pour le doublement et aussi pour les relations cultuelles, car cet anniversaire précéderait d'une semaine environ la fête prénestine de Fortuna Primigenia. La fête romaine du 5 avril préludait-elle aux festivités de Préneste ? C'est une possibilité, et je serais heureux qu'il en fût ainsi, mais malheureusement, nous savons que le sacrifice de Préneste était célébré par les Duumvirs de la colonie, et même s'il y a des dédicaces de magistrats romains à Préneste, rien ne permet de parler d'un culte commun, comme à l'Anuvium, etc. Néanmoins, cette déesse possédait une et même plusieurs succursales à Rome. Aux trois temples du Quirinal s'en ajoute même un quatrième qui était situé au Capitole, à proximité du temple de Jupiter Tarpéien, comme le rappelle une dédicace versifiée de Préneste, donc sur le Capitole. Plutarque attribue ce temple, comme la plupart des temples de fortune, à Servius Tullius, mais ça n'a pas une grande valeur. Préneste était, comme tous les autres sites latins du suburbium, le lieu d'actes religieux publics romains. Depuis la destruction de Préneste en 83 avant notre ère, au cours d'un épisode sanglant, très sanglant même, de la guerre entre Silaniens et Marianistes, le fameux temple et son oracle était placé sous le contrôle d'une colonie romaine. Cicéron admet que le sanctuaire prénestin de Fortune demeure célèbre auprès de la foule en raison de sa beauté et de son ancienneté. Il considère toutefois qu'aucun homme, un tant soit peu en vue, n'aurait plus l'idée de consulter le fameux oracle prénestin. Même s'il convient De replacer cette affirmation dans le contexte du dialogue cicéronien sur la divination, et plus précisément dans le cadre de la critique de la divination par les sortes, ces sortes de baguettes que l'on tirait et dont le texte servait ensuite à la vaticination, il faut néanmoins conclure que, au milieu du 1er siècle avant notre ère, les magistrats et l'élite romaine ne consultaient plus l'oracle de fortune, malgré sa célébrité. Ce mépris fut toutefois passager et sous l'empire des personnes de qualité y firent des dédicaces. Par ailleurs, l'oracle pouvait parfois avoir une influence politique, malgré ce que Cicéron prétend. C'est ce que semble impliquer le désir manifesté par l'empereur Tibère d'interdire le fonctionnement de l'oracle et de le réserver à son propre, pour son propre usage. Il n'envisageait pas de le consulter à l'occasion, comme tant d'autres voyageurs, mais il voulait en faire un oracle réservé en permanence à son besoin particulier. Si l'empereur avait pu réaliser cette réforme, Praeneste aurait été alors vraiment le lieu d'actes divinatoires publics romains, c'est-à-dire effectués à la demande d'un dignitaire de Rome et pour les affaires de gouvernement romaine, même si l'oracle faisait partie d'une cité située à environ 23 000 de Rome. Le fait que les sortes, les baguettes aient disparu, etc., est de nouveau une histoire qui raconte qu'on ne peut pas déplacer le pouvoir d'une divinité de son temple. Donc ça ne contredit pas ce que je raconte. Mais c'est justement dans le cadre de ces relations que ça pourrait être placé. Tous ces exemples tendent à prouver la proposition faite après l'analyse de l'affaire d'Ancium, que l'ager romanus proprement dit, par opposition à toutes les terres conquises en Italie par Rome, était la somme de tous les lieux, continus ou non, dans lesquels Rome et ses magistrats effectuaient des actes souverains, comme l'étaient les rites religieux publics. L'implantation des cultes dans la ville de Rome faisait également tout simplement des cultes romains. C'était des cultes doubles désormais. Je vous remercie.